Merci d'écouter RFI. 8h à Washington et à Port-au-Prince. Il est 13h en temps universel.
Anne Cantner.
À la une de cette dernière demi-heure d'RFI Midi, le début des expulsions promises par Donald Trump aux États-Unis, près de 600 déjà hier, 600 personnes arrêtées dans des villes démocrates. On y reviendra dans quelques minutes. On parlera aussi de son projet de supprimer le droit du sol, projet suspendu par un juge fédéral. Explication à suivre. On reviendra aussi sur le sort du million de personnes déplacées en Haïti avec la représentante du réseau national de défense des droits humains en Haïti. Et puis l'actualité des Outre-mer françaises, comme chaque jour, avec vous, Benoît Ferrand, et nous irons d'abord en Martinique.
Martinique, où l'affaire, entre guillemets, de la publication des comptes de GBH, le groupe Bernard Ayotte, affaire examinée hier, a été renvoyée au 13 février prochain. Nous entendrons l'avocat des plaignants.
À tout à l'heure. Mais d'abord, le journal, l'essentiel de l'actualité internationale. Bonjour Clotilde Dumay.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Et à la une, un appel à la grève générale en Serbie.
Oui, presque trois mois après l'effondrement du auvent de la gare de Novi Sad, drame qui a fait 15 morts et que les protestataires attribuent notamment à la corruption qui caractérise le régime populiste du président Aleksandar Vučić. Après des semaines de blocage des universités et de nombreuses manifestations importantes, le mouvement tente donc de mobiliser l'ensemble de la population, Laurent Rouy, pour pousser le gouvernement à la démission.
L'appel à cesser le travail et à boycotter les commerces qui resteraient ouverts est avant tout une tentative d'entraîner la population du côté de la contestation. Le mouvement, déjà très populaire, s'appuie sur les étudiants qui bloquent les universités du pays. Ils réclament justice pour l'accident de Novi Sad et la démission du gouvernement. Pourtant, ce mouvement n'est pas assez puissant pour forcer la main du président Aleksandar Vučić. Dans ces conditions, les protestataires tentent de renforcer leur assise. Leur stratégie, troquer le soutien passif de la population contre une participation beaucoup plus active, à même de peser dans le bras de fer contre le pouvoir politique. La grève est très suivie dans l'éducation, les milieux culturels et par les avocats. De nombreuses petites entreprises s'y joignent, mais pas le secteur public où il semblerait que le gouvernement exerce des pressions pour empêcher les fonctionnaires de manifester. Dans ce contexte très polarisé, le parti présidentiel organise une contre-manifestation à l'ampleur incertaine en province, tandis que les manifestations éclairs du mouvement anticorruption ont lieu dans tout le pays. Laurent Rouy, Belgrade, RFI.
C'est l'un des bastions démocrates hostiles à Donald Trump aux États-Unis.
La Californie où Donald Trump est attendu aujourd'hui pour son premier déplacement en tant que nouveau président avec la Caroline du Nord, deux États touchés par des catastrophes naturelles, un ouragan et des incendies dévastateurs. Donald Trump qui commence par ailleurs à mettre en œuvre l'une de ses promesses de campagne concernant la lutte contre l'immigration. La porte-parole de la Maison-Blanche a annoncé l'arrestation et l'expulsion de centaines de migrants. En revanche, premier revers pour le nouveau président, un juge américain a suspendu l'un des décrets signés par Donald Trump dès son retour dans le bureau ovale. Il s'agit du décret qui doit mettre fin au droit du sol aux États-Unis. Depuis Washington, la correspondance de Guillaume Nodin.
Donald Trump voulait aller vite pour montrer qu'il tient ses promesses de campagne. Ceux qui contestent sa politique le savaient et ils ont donc agi en conséquence. Ce sont plus d'une vingtaine d'États qui ont attaqué dès sa signature le décret visant à restreindre l'attribution de la nationalité américaine aux enfants nés sur le sol américain. Un droit pourtant assez solide a priori, puisqu'il est garanti depuis 150 ans par le 14e amendement de la Constitution. C'est un juge de Seattle, dans l'État de Washington, qui a été le plus rapide. Il bloque le décret pour deux semaines en ajoutant qu'il a du mal à comprendre comment un membre du barreau, c'est-à-dire un juriste confirmé, peut affirmer sans équivoque que ce décret est constitutionnel. Le procureur général de l'État de Washington, ainsi que des responsables d'autres États, saluent cette décision. Interrogé à ce sujet, Donald Trump explique qu'il n'est pas surpris par la tournure des événements et que la Maison-Blanche va faire appel. L'affaire pourrait remonter jusqu'à la Cour suprême, dont trois des six juges conservateurs sur les neuf membres que compte l'institution ont été nommés par Donald Trump. Guillaume Nodin, Washington. RFI.
Et puis autre décision prise par Donald Trump, le retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui dit aujourd'hui regretter cette décision et qui va revoir ses priorités alors que cette annonce aggrave, selon le directeur général de l'OMS, la situation financière de l'organisation. Le Hamas va aujourd'hui communiquer le nom des quatre otages qui doivent être libérés demain, près d'une semaine après l'entrée en vigueur de la trêve dans la bande de Gaza. Ce sera la deuxième salve de libération après les trois femmes relâchées dimanche dernier. Au total, l'accord de cessez-le feu prévoit la libération de 33 otages retenus dans l'enclave palestinienne. Pendant ce temps, en Cisjordanie occupée, au moins 12 Palestiniens ont été tués, 40 autres blessés. Depuis le lancement en début de semaine par l'armée israélienne d'une opération d'envergure dans le camp de réfugiés de Jenin, les Nations Unies dénoncent l'usage de méthodes de guerre par Israël. Tamim Al-Kitane, le porte-parole du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme.
Nous sommes profondément préoccupés par l'usage illégal de la force meurtrière à Jenin, en Cisjordanie occupée. Les opérations meurtrières menées par Israël ces derniers jours suscitent de vives inquiétudes quant à l'utilisation inutile ou disproportionnée de la force, y compris de méthodes et de moyens mis au point pour les combats, en violation du droit international en matière de droits de l'homme et des normes applicables aux opérations de maintien de l'ordre. Il s'agit notamment de multiples frappes aériennes et de tirs apparemment aléatoires sur des habitants non armés qui tentent de fuir ou de se mettre à l'abri. Israël, en tant que puissance occupante, a la responsabilité de protéger la population du territoire qu'il occupe. Comme l'a souligné Volker Türk, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Israël doit adopter et appliquer des règles d'engagement pleinement conformes aux normes et standards applicables en matière de droits de l'homme.
Les Nations Unies qui réclament une enquête indépendante sur cette opération à Jenin. Et puis au Liban, l'armée israélienne prévient le retrait de ses troupes prendra plus de temps que les 60 jours prévus par l'accord de cessez-le-feu conclu avec le Hezbollah. Accord que le Liban n'a pas totalement respecté selon Israël. Le chef de la diplomatie saoudienne est arrivé à Damas. C'est sa première visite en Syrie depuis la chute du régime de Bachar al-Assad. Il doit rencontrer le nouvel homme fort du pays, Ahmad al-Sharqi, qui a déclaré fin décembre que l'Arabie saoudite jouerait certainement un rôle important dans l'avenir de la Syrie.
14h07 à Paris. Un peu de basket américain en France.
Et avec deux matchs de NBA délocalisés à Paris et le retour au pays de la star française Victor Wembanyama. Avec les San Antonio Spurs, ils ont surclassé les Indiana Pacers 140 à 110 hier soir à l'Accor Arena de Bercy. Et le jeune joueur français a répondu présent malgré la pression. Victor Wembanyama a inscrit 30 points et surtout Victor Missistrano, il a régalé le public.
On s'en parie.
Il a tout de suite annoncé la couleur.
Je vous promets de faire le maximum pour vous procurer un maximum de plaisir, de bonheur et de spectacle.
Et Victor Wembanyama a tenu parole, lui qui attendait tellement de ce rendez-vous à la maison. Il y avait ce risque de trop en faire, de passer à côté. Ce fut tout le contraire. Calme, relâché, le pivot des Spurs a fait preuve d'une grande sérénité en maîtrisant ses émotions pour livrer l'un des meilleurs matchs de sa jeune carrière.
Pour faire un grand match, il faut se concentrer sur les petites choses, sur les détails, sans essayer de faire quoi que ce soit d'incroyable. Voilà la multiplicité des actions simples et qui rend le match incroyable.
Incroyable comme cette séquence du troisième quart-temps pour permettre à son équipe de se détacher définitivement. Trois contres d'affilée sur des tirs adverses, des passes décisives lumineuses, une pour lui-même contre la planche. Bref, Wemby a étalé toute sa panoplie avant de sortir sous les ovations.
Je ne sais pas ce qu'a dit Victor avant le match, mais ça a bien marché en tout cas.
L'entraîneur des Pacers, Rick Carlisle.
C'est un joueur unique qu'on ne croise qu'une fois toutes les je ne sais combien de générations. Son pays, la France, doit être très fier.
La France pourra encore profiter de son joyau de 2,24 m jusqu'à samedi.
Puisque la revanche entre les Spurs et les Pacers, eh bien ce sera demain soir toujours à Paris. Et puis en tennis, Jannik Sinner va pouvoir défendre son titre à l'Open d'Australie. L'Italien s'est qualifié en finale après sa victoire en 3-7 contre l'Américain Ben Shelton. Le numéro 1 mondial qui affrontera l'Allemand Alexander Zverev en finale ce dimanche. Pour le moment, la suite sur RFI, avec Van Kantner.
Merci Clotilde Dumais. Dernière partie d'RFI Midi. Nous sommes sur le continent américain jusqu'à 13h30, temps universel. Et aux États-Unis pour commencer.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Il l'avait promis, il l'a fait et aussi rapidement que prévu. Donald Trump poursuit sa politique anti-immigration avec hier les premières arrestations et expulsions de migrants sans titre de séjour. Cette opération, elle s'affiche en une de la presse que vous avez lue pour nous, Christophe Paget. Près de 600 personnes déjà interpellées dans la journée d'hier.
Oui, selon le quotidien mexicain Milenio, plus de 500 migrants auteurs de délits mineurs ont été expulsés. Aux États-Unis, dans les communautés de migrants, dans la région de Boston, tout le monde est paniqué, titre le Boston Globe. Les rumeurs de raids des officiers de l'immigration courent sur les médias sociaux, dans les boucles téléphoniques. Les migrants affolés appellent leurs avocats. Des rumeurs qui, dans ce cas, se sont révélées fausses, écrit Le Quotidien. Mais dans les villes où la population immigrée est importante, c'est la panique. D'autant que, annonce USA Today, Donald Trump affecte des milliers d'agents fédéraux supplémentaires à l'arrestation d'immigrants. Les US Marshals, la Drug Enforcement Administration, le Bureau des alcools, du tabac, des armes à feu et des explosifs, ainsi que le Bureau fédéral des prisons. Dans le Chicago Tribune, le maire de Chicago, Brandon Johnson, s'engage à lutter pour protéger tous les habitants de Chicago et affirme qu'il ne cédera pas devant les menaces de poursuites par le ministère de la Justice de Donald Trump.
Et pendant ce temps, le Mexique se prépare au retour de ses migrants expulsés.
La présidente Claudia Sheinbaum a dit son opposition aux expulsions annoncées par Donald Trump, rappelle le New York Times, mais le Mexique ayant le plus grand nombre de migrants illégaux vivant aux États-Unis, estimé à 4 millions, le pays doit se préparer. Ce jeudi, écrit Excelsior, Claudia Sheinbaum a indiqué que les travaux d'adaptation des centres pour les migrants mexicains qui pourraient être rapatriés par le gouvernement Trump se poursuivent. Deux sont déjà prêts et les 9 faisant partie du programme « Le Mexique vous prend dans ses bras » devraient être prêt en fin de semaine. 9 centres situés près de la frontière, détaille le New York Times, constitués d'immenses stands situés dans des parkings, des stades et des entrepôts, avec des cuisines mobiles gérées par l'armée. Toutes les branches du gouvernement doivent participer à cet effort, et au-delà, la présidente, relève Excelsior, a ainsi remercié le Conseil de coordination des entreprises pour son soutien dans l'ouverture de près de 35 000 postes de travail pour les ressortissants mexicains.
Une préparation donc au Mexique et dans plusieurs pays d'Amérique latine, car Donald Trump ne compte pas s'arrêter là. Vous le savez, il a même annoncé son intention d'interdire temporairement le droit du sol. Mais le décret en ce sens, signé juste après son investiture, a été suspendu par un juge fédéral. La décision, dit ce magistrat, est inconstitutionnelle, contraire au 14e amendement. Ce juge n'a suspendu le décret que pour 2 semaines, question de procédure. Mais ce n'est de toute façon probablement que le début d'une série de procédures judiciaires. C'est ce que nous explique Sébastien Natrol, journaliste et spécialiste de la Cour suprême.
Il a été suspendu temporairement parce que c'est le seul moyen pour un juge de district de pouvoir agir au niveau national. C'est ce qu'on appelle une « nationwide injunction ». Donc ça permet d'agir dans tout le pays, puisque normalement les cours fédérales agissent à un niveau territorial. Donc là, ça permet de suspendre cela au niveau national. Néanmoins, voilà, on l'a vu, ça se termine au bout de 14 jours. Ça pourrait être éventuellement prolongé un petit peu plus longtemps, mais cela va poser question pour Donald Trump, puisque son executive order, ce qu'on peut appeler un décret en français, va à l'encontre des nombreuses jurisprudences de la Cour suprême, et ce, depuis 1898. Si l'injonction n'est pas prolongée, le décret pourra à nouveau s'appliquer, mais de toute évidence, on peut imaginer que toute personne, enfin en tout cas toute famille qui serait touchée par ce décret, pourrait saisir la justice et de le faire invalider dans leur propre cas. Ça va être extrêmement compliqué de pouvoir faire vivre ce décret et pour Donald Trump de pouvoir suspendre cette nationalité acquise en vertu du droit du sol.
Sébastien Natrol, journaliste et spécialiste de la Cour suprême, il répondait à Nicolas Rocca. L'immigration était au cœur d'un échange téléphonique entre Donald Trump et son homologue du Salvador hier, le très autoritaire Nayib Bukele, qui avait assisté lundi à la cérémonie d'investiture. Selon la Maison-Blanche, le président américain a aussi évoqué la lutte contre les groupes criminels et il a salué le leadership du président salvadorien et l'exemple qu'il représente, selon lui, pour les pays occidentaux. Donald Trump, lui aussi, sert d'exemple. C'est en tout cas ce que dit l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro. Et la presse y revient, Christophe Paget.
Oui, Jair Bolsonaro a espéré que son pays s'inspire de Donald Trump, plus précisément de sa décision de gracier des personnes condamnées pour l'assaut du Capitole. L'ancien président d'extrême droite pense bien sûr de son côté à une amnistie pour les quelques 400 personnes arrêtées pour avoir attaqué le siège des trois pouvoirs à Brasilia en 2023, rapporte Correio Brasiliense. Il cherchait à saboter l'investiture du président Lula. J'espère qu'un président de droite n'aura pas à revenir au pouvoir pour faire cela et que le Congrès résoudra ce problème maintenant, a espéré Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro qui est lui-même sous le coup d'une enquête pour déterminer s'il est l'instigateur de cette tentative de coup d'État du 8 janvier.
Donald Trump est une inspiration aussi pour le président argentin qui l'a qualifié hier de lumière pour le monde entier lors de son intervention au Forum économique de Davos. Javier Milei, dans la droite ligne du dirigeant américain, a critiqué ce qu'il appelle le cancer du wokisme. Mais ces déclarations ne sont pas complètement anodines, Anne Verdaguer. En fait, la proximité affichée par Javier Milei avec Donald Trump lui permet aussi de se positionner sur la scène internationale.
Le féminisme, la diversité, l'inclusion, l'équité, l'immigration, l'avortement, l'idéologie de genre sont différentes têtes du même monstre. Dans son discours à Davos, le président argentin reprend les thèmes de prédilection de Donald Trump. Les deux chefs d'État apparaissent comme les deux clones d'une même pensée. Au passage, Javier Milei renforce la légitimité de son pouvoir dans une volonté de construction d'un leadership international réactionnaire. David Coppello, politologue et spécialiste de l'Argentine à l'Institut catholique de Paris.
Le programme idéologique, politique et économique de Milei est relégitimé sur la scène internationale et nationale par l'élection du président de la première puissance mondiale qui, en gros, sur une grande majorité des sujets, est d'accord avec ce que propose Milei. Milei n'est plus si marginal que ça. Quelque part, il y a aussi un challenge de Milei de se réaffirmer comme celui qui avait proposé tout ça en premier et qui maintenant a trouvé des nouveaux partenaires internationaux.
À la manière de Donald Trump, Javier Milei souhaite aussi apparaître comme un partenaire intraitable sur la scène commerciale internationale. Il a ainsi menacé de quitter le Mercosur pour sceller un accord de libre-échange avec les États-Unis et échapper aux droits de douane américains.
À Buenos Aires, il est 10h16.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
La suite de votre revue de presse, Christophe Paget, en Haïti, d'où est parti le chef de l'exécutif, Leslie Voltaire.
Oui, le président du Conseil présidentiel de transition va aller en France et au Vatican, où il sera reçu samedi par le pape, rapporte Le Nouvelliste. Dans son éditorial, Franz Duval remarque que notre diplomatie n'est pas toujours là où elle devrait être, ni avec les interlocuteurs les plus attendus, mais elle s'active. Toute l'utilité de la diplomatie est d'aider à trouver des résultats, des ressources, des moyens aux problèmes. Et Franz Duval de conclure, dans le cas d'Haïti, nous n'avons souvent que les sourires et des soupirs.
Des sourires et des soupirs alors qu'il y a urgence. La situation sécuritaire ne cesse de se dégrader à mesure que l'emprise des gangs augmente. En témoigne ce chiffre dont nous vous parlions la semaine dernière. 1 million de personnes déplacées, c'est 3 fois plus que l'année précédente. Bonjour Michael Ponge.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Cette augmentation exponentielle, elle pose évidemment la question de la gestion de ces personnes déplacées.
Absolument, et on va parler là non pas de ceux qui ont trouvé refuge ailleurs, chez des proches, de la famille, mais bien des quelques 150 000 personnes, parmi lesquelles 30 000 enfants, qui sont aujourd'hui répartis sur des sites d'accueil. Vous allez le voir, le terme n'est peut-être pas le plus approprié. Haïti en comptabilise 117 répartis dans le département de l'Ouest, où se trouve Port-au-Prince, et dans le département de l'Artibonite, autre zone où les gangs sévissent. Des chiffres donnés par le Réseau National de Défense des Droits Humains, le RNDDH, qui a enquêté sur l'état de ces sites d'accueil en visitant une grande partie. Rosie Auguste du Sénat est chargée de programme au RNDDH. Elle nous rappelle d'abord que les sites dont on parle ont vu le jour après le séisme de 2010, dont on vient de commémorer le 15e anniversaire. Mais la population qui s'y trouve n'a plus grand rapport avec le séisme.
Seuls 5% des sites d'accueil reçoivent aujourd'hui encore des victimes du séisme du 12 janvier 2010. Et les 95% restants accueillent des personnes qui ont dû fuir la violence des gangs armés qui sont regroupés depuis 2024, comme vous le savez déjà, autour de la Fédération terroriste Vive Ensemble. 54% des sites ont été créés en 2024 et 27% en 2023, ce qui révèle que les attaques des gangs armés contre la population ont été plus virulentes au cours de ces 2 dernières années.
Des sites dont le nombre, Anne, vous l'avez donc entendu, a doublé l'année dernière.
Vous nous disiez, Michael, que ce terme de site d'accueil n'était pas le plus approprié. Pourquoi ?
Tout simplement parce qu'on parle là de lieux qui n'ont pas été créés, mais des sites, bâtiments préexistants, des écoles notamment, des églises, des hôpitaux, des locaux administratifs, bref, des espaces qui ne sont pas du tout faits pour accueillir des déplacés, où promiscuité et insalubrité sont maître mot. Pour la grande majorité, il n'y a pas d'accès à des points d'eau ou bien des toilettes. Écoutez Rosie Auguste du Sénat.
Dans ces espaces, les déplacés défèquent comme ils le peuvent, c'est-à-dire à même le sol, dans des sachets, dans les plats à emporter après les avoir utilisés, c'est-à-dire après avoir mangé peut-être la nourriture qu'ils se sont procurés ou qui leur a été offerte. Et il y a d'autres déplacés qui achètent auprès des résidents alentour le droit d'utiliser leurs toilettes.
Avec évidemment tout un tas de maladies qui se développent.
Les pathologies les plus rencontrées sur les sites sont la fièvre, la grattelle, la grippe et la toux, la diarrhée, des infections vaginales, la migraine, des nausées et des vomissements. Donc, plusieurs de ces pathologies, en fait, sont liées aux conditions générales de vie.
Et on ne parle là que des maladies physiques, alors que la prise en charge des questions de santé mentale devrait être une priorité. Évidemment, il n'en est rien. Le problème, Anne, c'est qu'il n'y a pas de programme de soins déployé sur tous ces sites. Selon le RNDDH, moins de la moitié des lieux que l'organisme a pu visiter bénéficient d'un plan de santé de la part de l'État. Ce sont dans la grande majorité des cas des cliniques mobiles qui se déplacent, des cliniques gérées par des ONG.
Et d'ailleurs, que fait l'État ?
On ne peut pas dire qu'il est totalement absent, mais ses efforts sont insignifiants, selon Rosie Auguste du Sénat, qui dénonce la mainmise des ONG. Il y a, selon elle, aujourd'hui 38 ONG qui déploient leur action sur les différents sites.
Ces organisations, nous le reconnaissons, elles font beaucoup d'efforts pour venir en aide à la population haïtienne qui est aujourd'hui déplacée, mais nous avons quand même cette préoccupation que ces efforts ne respectent pas toujours les règles de redevabilité, les règles d'impartialité, de participation et de diligence. Par exemple, de nombreuses distributions se font dans le désordre général. Les personnes qui sont assistées n'ont pas été consultées avant, c'est-à-dire que les besoins spécifiques de cette population de déplacés ne sont pas toujours prises en compte, mais surtout notre plus grande préoccupation au niveau du RNDDH, c'est l'absence de l'État ou cette mauvaise manie qu'a l'État de tout laisser gérer en matière d'aide humanitaire par des organisations privées et organisations non gouvernementales. D'autant plus que nous savons qu'il y a un ministre chargé des affaires humanitaires auprès du Premier ministre, donc justement nous nous attendions à ce que l'État haïtien prenne le contrôle de ce qui se passe sur le terrain. Et encore une fois, sur ce point, on pense qu'on est beaucoup plus dans ce qui se passait au lendemain du tremblement de terre, c'est-à-dire un espace humanitaire contrôlé carrément et par les organisations privées et non gouvernementales.
Un ministre dédié, vous l'avez entendu, pour la gestion des déplacés, un ministre qui, d'après le RNDDH, n'a jamais été vu sur le terrain.
Et puis se pose aussi la question de la sécurité sur ces sites.
Et là encore, Anne, la faute, selon Rosie Auguste du Sénat, à une absence de l'État.
L'État haïtien n'a aucun contrôle sur la sécurité des personnes déplacées. C'est-à-dire, et à l'intérieur et à l'extérieur, la police haïtienne, elle est absente de ces espaces. Or, dans 73% des sites monitorés, nous avons aussi relevé des cas de bagarre, de coups et blessures, des cas de vol, d'injures et de troubles à l'ordre public. Et il nous a aussi signalé dans 10% des sites des cas de violence sexuelle. Des cas de violence physique et sexiste à l'égard des femmes et des filles ont été dénoncés dans 7% des sites. Et dans 5%, il nous a été rapporté que des hommes s'agglutinaient autour des espaces réservés aux douches pour pouvoir harceler des femmes et des filles qui fréquentent ces espaces.
Et face à tous ces méfaits, eh bien, c'est encore le système D.
Aujourd'hui, la sécurité de ces espaces est laissée entre les mains des comités de camp. Il y en a qui ont créé des brigades de protection. Dans d'autres espaces, cette sécurité, elle est laissée entre les mains des personnes qui y vivent. Donc, c'est très mal organisé, c'est très peu organisé tout au moins. Déjà aussi que les personnes qui sont dans ces espaces n'ont à leur disposition que des bâtons, par exemple. Donc, nous pensons que la police nationale, elle a l'obligation de prendre le contrôle de ces espaces.
De prendre le contrôle de ces espaces afin d'éviter, comme cela s'est déjà produit, que des gangs viennent attaquer des sites de déplacés. Le RNDDH recommande pour cela que soit fourni à la police matériel et équipement, une police qui aujourd'hui se débat avec peu de moyens face à des bandits surarmés et suréquipés.
Merci Michael Ponge.
RFI, la radio del mundo.
Dernière partie de votre revue de presse, Christophe Paget. En Colombie, toujours confronté à une flambée de violences meurtrières de la part des guérillas, les autorités demandent l'aide du Venezuela voisin.
Oui, particulièrement dans la région du Catatumbo, à la frontière avec justement le Venezuela, où la guérilla de l'ELN a attaqué les dissidents des FARC. Le président colombien Gustavo Petro, pardon, a indiqué hier, alors qu'il était en Haïti, avoir discuté directement avec son homologue vénézuélien, Nicolas Maduro, pour aborder la fermeture des points de passage illégaux sur le fleuve Catatumbo, rapporte El Universal, et pour coordonner des actions conjointes avec les groupes armés sur la frontière. Selon El Colombiano, la présidence réfléchirait à inclure, en plus du Catatumbo, la région de l'Arauca dans le décret instaurant l'état d'urgence. Car dans cette région aussi, les groupes armés s'affrontent et, a souligné Gustavo Petro sur son compte X, c'est de cette région de l'Arauca que sont en majorité partis il y a un mois des membres de l'ELN pour rejoindre le Catatumbo et tenter de prendre le contrôle du trafic de cocaïne sur la frontière.
Christophe Paget, votre revue de presse, la dernière. à retrouver sur internet rfi.fr. On va faire une dernière escale au Canada avant de retrouver nos confrères de La Première. Nous en parlions hier sur cette antenne. Le groupe Amazon a fermé ses 7 entrepôts au Québec, licencié 1700 employés pour confier le travail de livraison à des sous-traitants. Il n'y a pas de raison officielle présentée, Pascal Guéricola. Mais cela ressemble à une punition contre des salariés dont certains venaient tout juste de se syndiquer.
La CSN, un des principaux syndicats du Québec, a aidé les employés d'un des entrepôts à se syndiquer en mai. Sa présidente, Caroline Senneville, dénonce la fermeture de tous les établissements d'Amazon au Québec.
Ils ont des pratiques antisyndicales. Ils ont été punis pour ça. Ils refusent de négocier une convention collective. Qu'est-ce qu'il leur restait à faire? Ben, il leur restait à fermer. C'est très important. C'est la seule province où ils le font. Ils le font pas ailleurs au Canada parce que le Québec est la seule province où il y a un entrepôt syndiqué.
De leur côté, des partis d'opposition demandent au gouvernement et aux organismes publics de boycotter les services d'Amazon. La professeure en relations du travail, Mélanie Laroche, à l'Université de Montréal, suggère un changement législatif en pensant au personnel licencié.
Ces gens-là perdent leur emploi parce qu'un groupe parmi les 7 établissements ont décidé de s'organiser collectivement. Puis ça, c'est un droit qui est protégé en principe. Fait qu'il faut s'assurer que ce droit-là soit vraiment protégé. Il faut prendre des mesures, puis il faut renforcer les lois du travail pour le permettre.
Le syndicat CSN évalue actuellement s'il peut évoquer une fermeture d'Amazon au Québec pour motifs antisyndicaux devant les tribunaux. Pascal Guéricola, Québec, RFI.
Et on va retrouver tout de suite nos confrères de La Première pour l'actualité des Outre-mer françaises.
Le journal de l'Outre-mer.
Benoît Ferrand prend d'abord la direction de la Martinique. L'affaire de la publication des comptes du groupe Bernard Ayotte a été renvoyée au 13 février prochain.
Après une première audience en décembre, le tribunal a examiné hier après-midi la demande d'une association réclamant cette publication. Affaire renvoyée donc au jeudi 13 février, ce dont se satisfait l'avocat de l'association, maître Renaud Portejoie. Il est au micro de Cécile Marre.
Il n'y a pas de hasard. Dernière audience, on nous transmet les comptes déposés la veille de l'audience. On nous demande de les croire sur parole, comme quoi ils ont rempli leurs obligations légales. Nous demandons un renvoi pour vérifier que les comptes déposés sont ceux que nous réclamons. Et puis nous découvrons très rapidement que ce sont les comptes sociaux et non les comptes consolidés qui permettent d'avoir un regard global sur la santé de ce groupe international. On a bien fait de demander un renvoi. On revient aujourd'hui et j'apprends ce matin que les comptes consolidés que nous sollicitons auraient été déposés. Alors, je crois que GBH imaginait que nous allions solliciter un renvoi pour vérifier. J'ai plaidé en demandant la retenue de ce dossier, en considérant que le président pouvait disposer du temps nécessaire dans le cadre du délibéré pour vérifier tout cela. Le président a préféré un très bref renvoi à 15 jours. Donc, c'est une très bonne décision que je salue.
Affaire à suivre, c'est bien le cas de le dire. On reste un peu et même beaucoup dans le même domaine avec l'adoption hier à l'Assemblée nationale de la proposition de loi contre la vie chère portée par la députée martiniquaise Béatrice Bellé. Objectif, redonner du pouvoir d'achat aux consommateurs et assurer plus de transparence. Béatrice Bellé est au micro d'Odane Agiali.
Puisque la raison, le raisonnable n'a pas eu cours ces dernières décennies, eh bien nous sommes obligés par la loi de venir contraindre un certain nombre d'acteurs à se limiter, à être plus vigilants et surtout à respecter la dignité de nos compatriotes. Nous sommes dans une économie captive et le mot captif n'est pas simplement un terme comme ça. Nous sommes prisonniers souvent de nos territoires parce que ce sont des territoires insulaires. Les choses les plus basiques sont des éléments de luxe. L'eau est un élément de luxe. Le téléphone est un élément de luxe. La mobilité est un élément de luxe. Ce que nous sommes en train de dire, c'est qu'il faut que ce luxe s'arrête. Le luxe, c'est le luxe. Les besoins primaires des personnes sont les besoins primaires. Et nous mettons donc un pas devant l'autre pour y arriver.
Bon après-midi, bon week-end. Anne, à lundi.
À lundi, Benoît Ferrand.
Je vous French kiss avec la langue de Molière. Ça vous excite. Quand je vous baise dans l'oreille, je parle anglais comme Tony Blair. Je parle allemand Adolf Hitler. Mais en français, je prononce les R. Éclair, tonnerre, pomme de terre.
Et on se quitte avec un peu de musique. Vous aurez peut-être reconnu Chili Gonzalez. Il sera en concert ce soir à Paris. Et voici ce titre. On l'a entendu dès les premiers mots. French Kiss.
Blablabla, etc. Patati patata. Je viens du Canada. J'aime les castors. Mais à la frontière, je suis franchouillard. Check mon passeport. Chansonnier parolier. Mais je suis pas Benjamin Biolay. Je raconte triolet. Votre langue est intimidante, ok? C'est en français que Chili chante, ok? Ça m'a pris longtemps. Beaucoup de romans, beaucoup de films, dis mon temps. Avec mon petit accent, si charmant. Et je comprends que je manque de maîtrise. Mais heureusement, j'assume mes bêtises. Votre passé simple n'est pas si simple. Le mien est compliqué comme un labyrinthe. Beaucoup trop jeune pour Verlaine ou Prévert. Je préfère lire des pentes. Beaucoup trop vieux pour parler en verlan, je n'ai pas 17 ans.
Et c'est avec Chili Gonzalez que se termine RFI Midi aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous lundi, 11h30, temps universel. Passez une très bonne journée sur notre antenne.
Avec ma langue française, je vous French kiss. En dansant la javanaise.
RFI Midi.